Les manettes à la baguette sur RCN. Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale films, séries et jeux vidéo. Cette semaine, après nos escapades de l'émission passée, le temps est venu de se poser ou de se reposer un temps. Oui, mais un temps seulement. Reposons nos forces physiques et notre courage d'investissement pour se concentrer un peu sur l'esprit. Notre thématique d'aujourd'hui, en effet, va se pencher sur les réflexes et la réflexion dans les jeux, certes, mais pas que. On a vu fleurir ces 20 dernières années les jeux qui faisaient appel à nos méninges ou nos réflexes avec l'explosion de ce que l'on appelle le casual gaming. Mais si vous connaissez, les smartphones ont depuis fort longtemps remplacé les Game Boy dans vos poches et y pullulent des applications de jeux de réflexes ou de réflexion. Dieu merci, ce n'est pas l'apanage que des tablettes ou des téléphones portables. Nous allons donc voir ce qui se fait dans les consoles avec un C majuscule et nous n'oublierons cependant pas d'écouter aussi quelques bandes originales qui traitent de cet excellent sujet, je trouve, l'usage récréatif de l'esprit. Quel plus beau démarrage d'émission pour moi que de vous parler de cette console qui n'avait pas encore pointé le bout carré de son petit nez dans les manettes à la baguette, la Nintendo DS. Mais si vous vous en souvenez, j'en suis sûr, apparue en 2004 au Japon et en 2005 chez nous. Avec ses différentes variantes, elle fut la console portable la plus vendue de tous les temps et la deuxième console la plus vendue en prenant en compte les consoles de salon juste derrière la PS2. Pour se convaincre de ce succès, son jeu phare New Super Mario Bros. Est devenu l'un des jeux les plus vendus au monde. Et si je vous parle de cette merveilleuse console portable, c'est parce que son store comprenait son magasin en ligne d'achat de jeux dématérialisés, comptait à son catalogue l'un des plus intéressants jeux de réflexion que je connaisse à ce jour et qui n'a pas son équivalent aujourd'hui. Je souligne que quand je vous parle d'équivalent, je veux dire un type de gameplay qui fisse date ou école, comme un Candy Crush par exemple. Ici, non, de l'original, pur original. En 2009 donc, sortait Reflect Missile, un jeu de type casse-brique à l'ambiance très calme où il s'agissait depuis l'écran inférieur de la console de faire partir une série de missiles qui rebondissent une fois ou plusieurs fois afin de détruire des cibles de la manière la plus coordonnée. Les tableaux s'enchaînent ensuite selon une courbe pédagogique de difficulté. Développé conjointement par Nintendo et Q Games, Reflect Missile aura réuni sa petite communauté en Occident, mais aura marqué le cœur de bon nombre de joueurs nippons. Quant à sa bande originale, c'est du pur Nintendo de la fin des années 2010, avec son brio mélodique, ses textures très Nintendo-y dans une esthétique SF surannée et très joyeuse. Il le fallait, car pour finir Reflect Missile, nos méninges étaient soumises à rude épreuve. De Masaru Tajima, voici la piste sobrement intitulée « Musique B, attention missile ».
Thank you.
Comment vous parler des jeux de réflexes et réflexions sans parler du jeu le plus connu de tous les temps ? Non seulement le jeu le plus connu de tous les temps, mais aussi la musique de jeux vidéo la plus connue de tous les temps. Tetris ! Tetris est, sans discussion ni débat, le père de tous les jeux de réflexion. Il ouvre une nouvelle voie à tous les puzzle games qui viendront après lui, et il fera le succès des consoles portables Nintendo pour longtemps. Mais revenons un peu en arrière. La paternité de Tetris revient à un trio soviétique, Alexei Pajitnov, aidé de Dmitri Pavlovski et de Vadim Gerasimov. En 1984, le premier d'entre eux sort la toute première version de Tetris sur Electronica 60, un ordinateur de 1982 fabriqué en Russie et qui, n'ayant pas de fonction graphique, utilisait du texte pour simuler les briques. Le jeu sera édité par plusieurs sociétés au cours du temps, un film biopic d'ailleurs traite du sujet, menant à une sorte de guerre des droits jusqu'à la fin des années 80. Le déroulement précis du développement et des premières commercialisations est d'ailleurs toujours soumis à débat aujourd'hui, mais ce que l'on peut dire, c'est que depuis 1996, et ayant été avec succès exploité par Nintendo, les droits de Tetris appartiennent depuis cette date à la société Tetris Company. Il n'y a pas une console au monde qui n'ait pas eu sa version de Tetris, et bien que les premières versions du jeu ne possédaient pas de musique, la version NES, la première console de salon de Nintendo, intègre alors trois pistes, dont une version de la danse de la fée dragée dans l'acte 2 de Casse-Noisette par Tchaïkovski. Les deux autres musiques de l'époque ne feront pas date, mais seront l'œuvre de Hirokazu Tanaka, avec une célèbre reprise de Kalinka. Cependant, à l'occasion de l'adaptation Game Boy, on reprend l'idée d'intégrer des thèmes connus classiques en choisissant des reprises en musique de fond. La plus connue et qui fera date est le thème de Korobeiniki, de Nikolai Nekrasov, avec son esthétique tirée du folklore russe, la musique appelée Type B. Et d'origine inconnue, quant à la troisième, la Type C, c'est une reprise de la suite française numéro 3 en C mineur de Jean-Sébastien Bach. La musique, au succès planétaire, type A, est une reprise dans la plupart des versions ultérieures du jeu. Rappelons que Korobeiniki est une chanson russe composée en 1861 que Nintendo a très probablement utilisée pour rendre hommage aux origines soviétiques du jeu. Elle est de nouveau reprise par Hirokazu Tanaka qui a travaillé sur la version NES. Cette mélodie devient l'emblème sonore du jeu grâce à son rythme plongeant les joueurs dans l'ambiance d'un jeu de réflexe rapide. Ce thème est par la suite repris au-delà du jeu. Il arrive même en 6e position des ventes de singles au Royaume-Uni en 92 via la reprise d'Andrew Lloyd Webber sous son pseudonyme Dr. Spin. Il apparaît également dans d'autres jeux, albums et films comme hommage à Tetris. Dans les années 2000, The Tetris Company ajoute comme prérequis à l'attribution de la licence qu'une version de Korobeiniki soit disponible dans tout nouveau jeu. Elle dépose une marque en 2006 pour protéger le thème. Vous voilà prévenu. Bon, quant à nous, et puisque j'avais un choix infini de versions à vous faire entendre, je vous ai concocté un medley tiré de l'opus Super Nintendo du jeu. Sortie en 1994, cette version de Tetris accompagnait en duo un autre grand puzzle game avec Dr. Mario dans un remake très réussi et à mon sens merveilleusement écoutable sur la puce musicale de la Super Nintendo dans son jus. Voici un medley où vous entendrez le titre principal du jeu, puis les trois thèmes type A, B et C. Allez, on fait tomber les tétriminos.
RCN, les manettes à la baguette, Johan Turpin.
Restons un peu plus longtemps au Japon avec un puzzle game développé et édité par Namco, sorti en 1999 sur borne d'arcade, puis partout de la PlayStation aux consoles Nintendo jusqu'au PC. Mr. Driller est un mignon kawaii foreur de mines que vous devez diriger pour qu'il creuse astucieusement son chemin toujours plus profond sans souffrir de chute de blocs et en assurant son oxygène. Un concept simple et donc terriblement efficace. Je ne pouvais, vu son succès asiatique, ne pas vous partager l'ambiance joyeuse et décontractée de ce jeu de réflexion dont voici l'un des thèmes principaux tiré de la version Dreamcast de 1999 et composé par le Yokohama Underground Group. Série maintenant avec un jeu de réflexion que vous connaissez tout aussi bien, les échecs. Mini-série à succès, aurais-je dû dire, avec le jeu de la dame produit par Netflix en 2020 qui met en scène Elizabeth Harmon dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse du monde et aussi combattre ses propres démons. Le jeu de la dame, la bande originale de cette série est confiée au docteur en musicologie américano-guatémaltèque qu'est le sémillant Carlos Rafael Rivera. Et on va entendre un extrait de sa bande originale avec le titre Borgov 3, tiré donc du jeu de la dame. Échec encore, mais cette fois-ci en film avec Le Prodige, sorti en 2014 par Edward Zick, qui est un biopic de Bobby Fischer, le génie américain des échecs qui, à l'apogée de la guerre froide, se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant l'Empire soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet homme complexe qui n'a jamais cessé de fasciner le monde. Dans le rôle de Fischer, on retrouve l'excellent Tobey Maguire, ici bien loin du costume de Spider-Man. Anecdote. Pour incarner fidèlement l'extravagant joueur d'échecs, l'acteur a lu une quantité énorme de livres sur la discipline et s'est entraîné avec les plus grands champions américains d'une part, mais pour mieux comprendre la psychologie de Fischer, il a en outre rencontré et discuté avec les proches de ce célèbre prodige. C'est James Newton Howard que je ne présente plus, que nous retrouvons à la baguette de cet excellent film dont nous allons écouter le titre « Bobby Wins » tiré du long métrage « Le Prodige ».
RCN, les manettes à la baguette, Yoann Turpin.
Allez, retour aux jeux vidéo avec un jeu dont j'ai parlé dans mon introduction sur Tetris, Dr. Mario. Dr. Mario est un puzzle game initialement sorti en 1990 sur NES et Game Boy. Il a été conçu par l'immense Kunpei Yokoi, papa de la Game Boy entre autres. Dans ce jeu, Mario avec sa blouse et son stéthoscope fait tomber dans une bouteille des pilules tricolores, où il s'agit d'éliminer des microbes aux couleurs correspondantes avec les meilleures combinaisons possibles de placement à la verticale et à l'horizontale. Ce jeu est une Madeleine de Proust pour moi, car c'est le premier puzzle game que j'ai appris à maîtriser d'une part, mais surtout parce qu'une de ses musiques composées par Hirokazu Tanaka, autre grand nom de la musique de jeux vidéo, comporte un caméo, une citation si vous préférez, d'un standard de jazz, le thème de Saint Thomas du saxophoniste Sonny Rollins. Et ce fut la première citation musicale dans la bande originale d'un jeu vidéo que j'ai reconnu lorsque j'avais aux alentours de 10 ans. Ah bon, trêve de nostalgie. Voici le titre appelé Chill dans Dr. Mario dans sa version Nintendo Wii de 2008.
Thank you.
Hommage maintenant à un merveilleux compositeur qui nous vient du jeu vidéo et qui a poursuivi avec succès dans les films. Richard Vreeland, connu initialement sous le pseudonyme de Disaster Peace, se fit connaître notamment avec la bande originale du puzzle game et reflection game Fez, un univers onirique et terriblement créatif tout en pixel art qui eut un impressionnant retentissement sur la scène indépendante du jeu vidéo. Vreeland écrivit une partition qui fait appel au style chiptune, mais en le revisitant avec des textures tout en réverbération, en altération sonore, avec des effets tels que le beat crushing ou le recours à des sons synthétiques des années 80. Son travail fut unanimement applaudi et son style devint reconnaissable entre tous. Nous écouterons justement le titre Progress, tiré du jeu sorti en 2012.
Thank you.
Jeux vidéo toujours avec Braid, un titre développé par Jonathan Blow, sorti en 2008 sur Xbox Live Arcade. L'histoire est centrée sur Tim, un homme en quête pour sauver une princesse. Le principe du jeu mêle à la fois plateforme et réflexion. En effet, le joueur doit résoudre des casse-têtes basés sur la manipulation du temps. Braid fut un immense succès critique. Le jeu reste acclamé pour la qualité du game design, ses graphismes picturaux, les puzzles ingénieux et l'histoire très intelligente. Il est considéré comme l'un des meilleurs titres de l'année 2008 avec World of Goo, sorti quelques mois plus tard. Les deux jeux demeurent des emblèmes du jeu vidéo indépendant, le succès commercial de Braid restant perçu comme un exemple de viabilité du modèle économique utilisé. Ce sont les artistes Zieber, Kamen, Fulton et Schatz qui s'occupent de la partition. Avec goût et légèreté, nous écouterons le titre Downstream qui, vous le remarquerez à travers son violon et sa guitare, nous donne un certain goût de l'Irlande.
Thank you.
Allez, pour terminer, bien que j'ai traité en introduction de cette émission les jeux Android sur smartphone de casual gaming, ce qu'ils sont, mais désormais sans le dénigrement involontaire qu'on pourrait percevoir dans mon commentaire, il y a de véritables perles artistiques dans la foultitude de titres qu'on peut glaner dans ce genre. L'un d'eux est dans ses plus belles lettres de noblesse et sans doute Monument Valley, un jeu de réflexion en 2D isométrique. Ce titre a reçu de nombreuses louanges dès sa sortie, notamment pour la qualité de ses graphismes, dont les dessins sont en partie inspirés des gravures de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher, le spécialiste des objets impossibles. Très inspiré de la musique de Brian Eno, la musique de Monument Valley est confiée à Todd Becker, qui réalise un travail à l'image en parfaite symbiose avec l'esthétique du jeu qu'il sert, de l'espace et de la respiration. Vous en jugerez avec notre dernier titre, Gamelan Rain Melody, dans la bande originale du second opus de Monument Valley. Voici qui clôt notre épisode qui était dédié à ma très chère amie Castor. Quant à moi, il vous reste à vous conseiller de vous muscler les méninges aussi, en jouant et en écoutant les deux comme toujours à la fois.